9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Fabrice Gardel.
Bonjour.
Vous êtes le co-réalisateur d'un documentaire consacré à Jacques Martin, alors que ça fait 15 ans en septembre que l'animateur a disparu. Le titre de ce doc, Jacques Martin, derrière vos applaudissements, il sera diffusé ce soir à 21h sur Paris Première. Vous regardiez les programmes de Jacques Martin ?
J'étais petit, mais évidemment, comme toute la France, il y avait des millions de personnes qui regardaient le dimanche, la messe du dimanche. Il y a des gens qui disent même que les curés terminaient la messe plus tôt pour aller regarder Jacques Martin.
La lorgnette et le petit rapporteur avant ça.
Oui, et la lorgnette, le petit rapporteur, ils ont vraiment inventé énormément. Canal leur doit beaucoup. Et c'est vrai qu'avec Jean-Yann, c'était vraiment des génies. Ils ont vraiment créé des choses incroyables qu'on a un peu oubliées.
Il a même inventé les émissions de bande que tout le monde essaie de refaire maintenant. Jacques Martin, c'est plus de 30 ans de carrière. Comment vous avez construit ce doc qui est chronologique, parce qu'il a fallu éliminer beaucoup de choses?
Moi, ce qui m'intéressait, c'était le Jacques Martin le plus foufou, le plus libre. Et c'est-à-dire au début. C'est un type qui vient d'une famille extrêmement modeste. Il faut dire que sa mère, souvent, n'avait pas de quoi payer la cantine. Voilà. Et puis, il a été élevé de façon très, très dure chez les jésuites. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer ce type qui veut être comédien, qui veut être artiste, qui est un enfant de la balle, alors qu'il avait un père alcoolique et qui décide de monter à Paris. Donc, c'est cette liberté-là avec Jean-Yann qui m'a intéressé.
Vous racontez les débuts à Paris. Les débuts sont difficiles. Il crée un spectacle qui va connaître un échec. Le titre, Petit Patapon. Et c'est Daniel Evenoux, sa seconde compagne, qui vous raconte comment le Jacques Martin sur scène et le Jacques Martin à la maison n'étaient pas les mêmes.
Jacques était, à ce moment-là, beaucoup plus drôle dans la vie que ce qu'il faisait sur scène. Je détestais ce qu'il faisait sur scène. Moi qui le connaissais, je vivais avec lui, je le trouvais tellement drôle, tellement brillant. Et un jour, nous étions toujours très très nombreux pour les déjeuners. Et Jacques nous faisait rire. Et le soir, je dis, pourquoi t'as pas été aussi... T'es tellement brillant, pourquoi t'es pas comme ça sur scène? Et j'ai une idée. Enfin, une amie a une idée. On a mis un micro dans le bouquet de fleurs central de la table. En 3 dimanches, il avait son spectacle. Et quelques mois plus tard, grâce à ses enregistrements, il a fait un carton, où ça ? À Bobino.
À Bobino, c'était quel spectacle ? Ça s'appelait comment ?
Très honnêtement, je ne me souviens plus, mais ce que dit Daniel est vrai, c'est qu'il était extrêmement bon dans l'improvisation. Il y a Colaro dans le film qui raconte ça, c'est-à-dire que souvent, quand il écrivait, il travaillait, il n'était pas si bon, mais en revanche, quand il était face au vide, il était extraordinaire.
On est une émission média. Comment débute la carrière de Jacques Martin ? D'abord à la radio, c'était en 64.
Oui, il commence à la radio. En fait, il y a Jean-Yann qui est déjà un trublion et lui. Et puis il raconte en disant, voilà, les patrons aimaient pas ces deux gars, ils se disaient c'est des ringards, c'est des minables. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre ensemble, on va peut-être comme ça, ils vont peut-être faire quelque chose. Et comme dit Jacques Martin, il savait pas ce qu'il allait faire. C'est-à-dire qu'à tous les deux, sur Europe, sur RTL, ils ont révolutionné la radio et ensuite à la télé avec 1 égale 3, c'était vraiment des... Ils ont inventé énormément de choses, puisque vous êtes une émission média.
Ça, c'est 1 égale 3. Il y avait un sketch dans lequel ils mettaient en scène Napoléon, mais qui était à vélo, avec ses grognards. On dit, non, on ne peut plus rien dire, mais eux, ils vont être abonnés à la censure. L'émission sera supprimée à cause de cette séquence.
Eux, ils se sont fait virer de partout. De
racontez
l'ORTF.
Racontez comment ils se sont fait virer d'Europe, puisqu'on est à Europe.
Alors... Europe, ils se sont fait... Alors, je raconte juste comment ils se sont fait virer de la télé. Effectivement, ils avaient représenté...
Je viens de le dire. Racontez-nous plutôt comment ils se fait virer d'Europe 1.
Alors, Europe 1, c'est quelle anecdote ?
Alors, je vous la raconte. Vous connaissez moins votre documentaire que moi. Ils sont allés se faire cuire un œuf sur la flamme du soldat inconnu.
Ah oui, effectivement, c'est ce que dit Virginie Lemoyne. Et aussi, ils ont escaladé la façade d'Europe 1. Ils ont fait une émission en live sur Europe 1 en escaladant la façade.
Je crois que c'était RTL dont ils ont escaladé la façade. L'émission emblématique qui va rendre Jacques Martin très populaire, c'est Le Petit Rapporteur, émission lancée en 74 sur la jeune chaîne TF1. Et l'animateur raconte alors le concept de son émission.
C'est un journal, un journal hebdomadaire qui va... fusiller l'actualité sous un angle comique.
Mais fusiller
oui,
c'est avec un coup de grâce ou sans coup de grâce?
On verra, c'est selon. C'est une façon de voir l'actualité, assez inédite. Enfin, ce sera le petit journal humoristique du dimanche.
Un petit journal qui fusille l'actualité avec un angle comique, on pense évidemment au petit journal de Yann Barthès sur Canal+. On pense aussi à Ruquier, on pense aux émissions de bande de Canal. Et le petit rapporteur va devenir un modèle de ce qui va se faire à la télé pour les décennies qui arrivent.
Oui, exactement. Il a inventé ça et il faut rappeler que c'est lui qui trouve des proches, ce génie absolu. Il lit un petit papier des proches et il dit voilà. Et donc, effectivement, Pierre Bond, Colaro, il a inventé cet esprit de bande. Lui qui était un type de bande, effectivement, il a inventé ça dans les médias.
Il faut dire une chose, c'est que c'est quelque chose pour lequel j'admirais toujours Jacques Martin, parce que souvent les animateurs d'émissions de bande, ils ne prennent jamais des gens plus talentueux qu'eux pour ne pas qu'ils leur fassent de l'ombre. Et lui, il prend Desproges, qui était quasiment une sorte de génie comique et littéraire dont on célèbre toujours la disparition.
Oui, effectivement, il adore ce côté bande. D'ailleurs, ils terminent leur nuit chez Castel à faire des conneries, etc.
Il y en a d'autres qui ont fini chez Castel qui avaient beaucoup moins de talent que Jacques Martin.
Voilà, donc effectivement, il a un talent pour repérer les meilleurs et les plus intelligents.
On marque une courte pause et puis on va arriver à ce qu'a fait la gloire de Jacques Martin et des sketchs des nuls qu'il imite. C'est évidemment l'école des fans et pas seulement Culture Média. Continue.
9h-11h, Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie du réalisateur Fabrice Gardel, il co-réalise ce doc qui passe ce soir à 21h sur Paris Première. Jacques Martin, derrière vos applaudissements. Là, c'était devant, sous les applaudissements. L'animateur Jacques Martin, on va lui confier les après-midi de France 2, ça s'appelle Dimanche Martin. À l'intérieur même de cet après-midi, il y a une émission qui reste plus culte que les autres, c'est l'école des fans. Pourquoi, selon vous, qu'est-ce qu'a cette émission de plus que toutes les autres?
Je pense qu'il y a cette idée géniale de se pencher sur les enfants et de les écouter. Et je pense que ça cristallise un truc qui est très fort chez Martin. C'est pour ça qu'il est resté très populaire. C'est qu'en fait, il incarne la France. Il n'est absolument pas snob. Il déteste cette gauche caviar, un peu snobinarde. Et je pense qu'avec l'école des fans, ça cristallise cette espèce d'interaction entre lui et le peuple français. Lui, je le rappelais tout à l'heure, qui vient vraiment d'une famille extrêmement modeste. Et donc, je pense qu'il s'intéresse vraiment aux gens.
Alors, il s'intéresse aux gens et aux enfants, oui et non. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez fait témoigner sa fille dans votre documentaire, Élise Martin, et elle garde un souvenir très douloureux de ces années-là. Elle s'est confiée à votre caméra. Extrait.
J'ai eu de cesse d'entendre à cette époque-là, de par mes amis, les gens à l'école, qu'est-ce que t'as de la chance d'avoir un papa comme ça? Parce qu'à l'école des fans, il était proche des enfants, ce qu'il n'a pas réellement été avec nous, quoi. Donc moi, cette émission, elle me faisait plus mal au cœur. Je sais que ça a été l'émission phare de papa. Les gens adoraient, les Français adoraient cette émission. Moi, c'est une émission que je veux oublier parce que papa se montrait comme il n'était pas vraiment avec nous, quoi. Voilà.
Témoignage très fort. Alors évidemment, on ne peut pas évoquer Jacques Martin sans évoquer les femmes de sa vie. On entend Daniel Evenou dans votre documentaire, sa deuxième amoureuse, si j'ose dire. Jacques Martin est possessif, il vit très mal chaque rupture. Et David Martin, le fils qu'il a eu avec Daniel, vous raconte justement une scène incroyable. Alors David, il n'a pas eu avec Daniel, me dit-on, vous avez raison. Vous raconte une scène incroyable après le départ de Daniel Evenou.
Oui, effectivement, Daniel le quitte parce qu'il était insupportable. C'est-à-dire, il disait à ses femmes de ne pas bosser, il les laissait à la maison et lui, il faisait tout le temps la fête et sortait. Donc, c'était très dur. Donc, à un moment, elle en a marre, elle le quitte. Et David, qui est tout gosse, rentre chez lui et il a détruit l'appartement, mais vraiment détruit au sens, comme un studio comme ça, plus rien ne tient debout, tous les livres sont par terre, etc. Il y a 5 cm de gravats. Voilà. C'était quelqu'un qui avait une sorte de violence et de colère qui ressortait, et notamment au moment où ses femmes l'ont quitté, parce que malheureusement, les 4 femmes l'ont quitté.
Alors, parmi les femmes de Jacques Martin, il y a Cécilia Siganer, qui l'épouse à l'époque sous le regard du jeune maire de Neuilly, Nicolas Sarkozy. La suite, on la connaît. Cécilia quitte Jacques Martin pour Nicolas Sarkozy. L'animateur en garde une amertume immense et il fait passer des messages dans son émission. Comme s'en souviennent les humoristes Virginie Lemoine et Laurent Gérard qui travaillaient à ses côtés à l'époque.
Martin arrive un jour aux grosses têtes, furibard. Ouais, ce salaud, Sarkozy, il est parti avec ma femme. Et Bouvard lui a dit, tu vas quand même pas dire du mal du maire de tes enfants.
Quand il avait une idée sur un sujet, notamment à un moment donné, il fallait casser du Sarko. On disait, oui, mais Jacques, on va peut-être pas faire toutes les semaines un sketch sur Sarko quand même.
Ils sont réconciliés par la suite?
Non, ils se sont jamais réconciliés. Et ce que raconte Daniel Evenou, c'est qu'un, il lui pique sa femme. Il faut rappeler que c'est lui qui les avait mariés,
bien
et
sûr.
Comme il lui a piqué sa femme. Bon, et surtout, il avait le sens des bandes et des copains. Et ce que dit Daniel Evenou, c'est Être cocu, c'est pas agréable, mais cocu en amitié, ça, il a jamais digéré.
Si je puis me permettre, il manque un extrait dans votre documentaire, celui de son interview jumeau chez Ardisson. On rappelle le concept, l'invité répond à des questions qu'il se pose lui-même. Donc, Jacques Martin répond à Jacques Martin. Écoutez.
Quelle est la dernière personne que tu aies eu envie de tuer ? Le maire de Neuilly.
Et le maire de Neuilly, c'est Nicolas Sarkozy. Pourquoi cette séquence n'est pas dans votre doc alors qu'elle est emblématique ? Vous n'avez pas osé ou vous n'avez pas eu les droits ?
J'ai pas eu les droits. C'est juste pour cette raison, sinon je l'aurais mise, parce qu'effectivement, je trouve que l'extrait, il avait vraiment cette colère, on l'a dit pour Daniel Evenoux, et effectivement, Sarko, il a vraiment voulu, il s'acharnait sur lui, c'était une blessure énorme.
Question, pourquoi vous avez payé les droits ? Qui détient les droits et pourquoi ne les donne-t-il pas ? Est-ce qu'il y a des interdictions sur cette séquence qu'on peut récupérer ici ou là et qui est emblématique de la télé des années 90-2000 ?
Non, ce n'est pas des questions ça, c'est des questions aussi d'argent. Voilà, c'est des questions de production, mais il n'y a pas de censure sur ça.
En 98, c'est l'arrêt de l'école des fans. Comment l'a-t-il vécu, Jacques Martin, et de ses émissions ?
Eh bien, ça l'a tué. David raconte que, alors qu'il était là depuis 30 ans, c'était une institution, le patron de la télévision à l'époque le concerne, et il lui dit « Vous avez les dents jaunes et vous êtes gros, c'est fini. » Il est rentré chez lui, crise cardiaque. Voilà, c'est vraiment, ça l'a vraiment tué. C'était son métier, c'était sa vie, c'était, je l'ai dit, un saltimbanque. Et il s'en est jamais remis. Il s'en est jamais remis.
Il y a aussi quelque chose que vous passez sous silence. Il n'avait pas une hygiène de vie irréprochable, pour dire les choses poliment.
Non, j'ai fait un autre film sur Jean-Yann. Cette bande-là passait leur nuit chez Castel à picoler, à sortir. Il mangeait, il essayait de faire des régimes, ça ne marchait jamais. Donc non, il avait tout sauf une hygiène de vie. Il avait juste l'hygiène de la rigolade.
Ah oui. Vous revenez sur ces dernières années, vous ne les éludez pas, qui sont marquées par la maladie et la solitude. Comment ça se passait ? Qui venait le voir ? Il y avait encore des gens qui venaient le voir ?
Ben, c'est très difficile. C'était lui qui a été admiré par des centaines de millions de téléspectateurs et de Français tous les dimanches. Il se retrouve très, très seul, comme les gens qui perdent le pouvoir. Et donc, il va finir à Biarritz, quasiment seul. D'abord, il ne veut pas trop qu'on le voie parce qu'il est très, très affaibli. Et Laurent Gérard dit, mais il garde son humour parce que, par exemple, à un moment, il le voit et il est handicapé. Alors, il dit, Gérard lui dit, comment ça va ? Il dit, à moitié. Tu ne veux pas boire un coup ? Non, je préfère mourir en bonne santé. Voilà, sa fin est très triste.
Il est mort tout seul ?
Oui, il est mort tout seul. Je vous dis, bon, il y avait ses enfants, David, Élise, qui venaient le voir. Mais c'est une fin tragique et il ne voulait pas qu'on vienne le voir parce que lui qui avait été en haut de l'affiche, il ne voulait plus qu'on le voie dans cette déchéance-là.
Comment vous avez fait le casting ? Comment vous avez choisi les gens qui interviennent dans votre doc ?
Ben, j'aime les gens libres d'esprit et David est très drôle, je le connais depuis des années, et Élise n'avait jamais parlé. Et je pense que ce film a été très important pour elle parce qu'elle me l'a dit, pour une fois, je vois papa comme il était vraiment dans la vie, c'est-à-dire avec ses qualités et ses défauts, colérique, égoïste. Et je pense que c'est David qui m'a dit, ça lui a fait beaucoup de bien, Élise, de parler de ça, parce qu'elle en avait un peu marre de cette image de le papa qui s'intéresse à tous les enfants de France, alors qu'elle en avait souffert.
Ou alors j'ai manqué une séquence, mais j'ai vu ni Laurent Ruquier, ni Julien Courbet.
Non, mais on ne peut pas mettre tout le monde dans les films,
oui, mais
vous savez.
Oui, mais ils font partie du groupe M6. C'est pour ça que je me suis dit, étant donné qu'ils sont là-bas, et Paris Première, c'est la maison...
Oui,
c'est la...
non, mais ce n'était pas délibéré. C'est qu'une fois de plus, au départ, c'était un 52. On avait déjà tellement de matière avec Gérard Lemoine qu'on a fait un 70. Mm-hmm. Et je préfère que les gens s'installent et qu'on soit avec des personnages plutôt que de faire des trucs très clippés où chacun dit deux mots. C'est des histoires humaines et j'aime bien qu'on ajoute ça.
Dernière question aux médias. Paris Première, c'est une petite chaîne. C'est pas lui faire offense que de dire ça. Elle n'est pas sur la TNT. Est-ce que vous avez eu les mêmes moyens qu'une grande chaîne pour réaliser ce documentaire, sachant que justement, vous êtes adossé au groupe M6 ?
Ben, très honnêtement, j'avais fait un Jean-Yann pour eux, un Le Luron, et je trouve qu'ils sont extrêmement efficaces dans la communication et ils portent les projets. Et donc, c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. Et je pense que le film n'est pas du tout pauvre en archives.
Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous aviez les mêmes moyens que si vous aviez été allé tourner un doc pour M6 ou pour W9 ? Ou est-ce qu'on tourne parfois ce qui arrive dans les chaînes, dans les holdings, dans les groupes, où on tourne un documentaire, ensuite la chaîne décide sur quel support elle le diffuse ?
Non, moi j'ai signé avec Paris Première, c'est des budgets de Paris Première qui sont tout à fait honorables, évidemment qui ne sont pas exactement ceux de France Télévisions ou d'Arte, mais j'ai tout à fait les moyens pour faire le film et j'ai signé avec Paris Première.
Malheureusement, vous n'aviez pas les moyens pour passer la fameuse séquence d'Ardisson et l'auto-interview qui parlait du maire de Neuilly. Merci d'avoir été avec nous, Fabrice Garnier. Gardel. Je rappelle Jacques Martin derrière vos applaudissements. C'est à 21h sur Paris Première ce soir, évidemment. Merci encore. Culture Média continue. Après les infos de 10h, notre invitée sera la comédienne Michèle Larocque. On parle du film Ténor qui sort aujourd'hui, film dans lequel le chant lyrique qu'elle incarne rencontre la culture rap. Et puis dans Les Indispensables, Stéphanie Loire va nous parler du retour du groupe Kiss. Vous vous souvenez de Kiss ?
Bah évidemment.
Voilà. Et puis la BO du film Top Gun. Et puis Sébastien Bordonnave, on va parler d'une biographie dessinée. Un vrai tueur en série qui a inspiré dans le cinéma Psychose, Le Silence des Agneaux ou Massacre à la tronçonneuse. Rien que ça, à tout de suite sur Europe 1.
Jusqu'à 11h, Europe 1 Culture Média.